fidèle. Wow, merci à l'équipe de louange pour ce bon temps qu'on a eu ce matin. Merci de nous enseigner ces vérités aussi riches de la parole de Dieu et de juste nous amener ensemble, d'amener nos cœurs plus proches de Dieu dans la louange. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont parmi nous, ceux qui sont à la maison. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Mon nom est Dominique et je suis un des pasteurs ici. Et j'écoutais ce chant juste avant de venir. Dieu règne, Dieu est fidèle, Dieu est meilleur que tout. Et c'est le thème de cette série qu'on regarde depuis quelques mois maintenant dans le livre aux Hébreux. Et c'est vraiment phénoménal parce que cette lettre-là a été écrite dans le contexte de la persécution, dans le contexte où les gens qui recevaient cette lettre vivaient des moments difficiles, pouvaient vivre des moments de crainte, de peur, d'incertitude. Et dans ces moments difficiles de la vie, on nous appelle à nous tourner vers Jésus qui est meilleur que tout. Et ce matin, on va continuer dans cette thématique parce que vraiment ce qu'on a besoin au quotidien, c'est se rappeler ces vérités simples de l'Évangile, ces vérités simples de la parole de Dieu. J'allais débuter mon secondaire 4. Je venais de passer une été comme staff au camp des Bouleaux. Et j'allais débuter mon secondaire 4. Et j'avais eu cette conviction-là. Ça faisait quelque temps que Dieu travaillait en moi. Et j'avais cette conviction-là que cette année, je voulais arriver à l'école et être un témoin de Jésus. Je voulais partager ma foi à mes amis. Je voulais aimer mon prochain, je voulais aimer ceux qui, à l'école, peut-être les gens les aimaient moins ou les gens prenaient moins de temps avec eux. Dieu m'avait vraiment mis cette conviction-là dans mon cœur d'être un témoin de Jésus. Mais à ce moment-là, je savais aussi que mes amis à l'école, mes amis avec qui j'avais fait les trois premières années de mon secondaire, bien qu'ils savaient peut-être que j'étais un chrétien, je savais qu'ils ne pensaient pas comme moi. Je savais qu'ils avaient d'autres convictions que moi, d'autres croyances que moi. Et honnêtement, même si Dieu avait mis cette conviction-là en moi, j'avais cette crainte, j'avais cette peur, je tremblais à l'idée d'aller à ma quatrième année du secondaire. Et puis je me souviens cet été-là, juste avant de commencer l'école, j'avais prié à Dieu, puis j'ai dit « Seigneur, je te demande cette année de m'entourer, j'aimerais ça avoir un ami chrétien avec qui je peux partager ma foi à l'école ». Et j'étais vraiment loin de me douter de ce que Dieu allait faire dans ma vie cette année-là et comment Dieu allait répondre à cette prière. Mais quoi faire dans ces moments? Quoi faire dans ces moments où on se sent seul? Quoi faire dans ces moments où on a peur? Où nous tourner dans nos moments d'incertitude? Et ce qu'on va voir ce matin et ce qu'on voit depuis plusieurs semaines, c'est qu'on a toujours une bonne nouvelle, des bonnes nouvelles, quand on choisit dans ces moments de nous tourner vers Jésus. On va voir ce matin que notre intimité avec Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin pour persévérer dans notre foi. Notre intimité avec Jésus nous donne tout ce qu'on a besoin pour continuer. Pour persévérer quand ça ne va pas bien, quand on a peur, quand on est seul, quand on a des doutes. Notre intimité avec Dieu nous donne tout ce qu'on a de besoin. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais ça prendre un temps pour prier. Seigneur Jésus, je te prie d'être avec nous ce matin, de parler à nos cœurs. Tu sais ce qu'on a besoin d'entendre venant de ta parole ce matin. Tu sais l'encouragement qu'on a besoin. Tu sais peut-être qu'on a besoin d'être repris par le Saint-Esprit, par ta parole ce matin. Je te prie d'ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse être à l'écoute de ce que tu as à nous dire, Seigneur Jésus, et de ce que tu veux faire dans nos vies. Et c'est ma prière ce matin que tu puisses vraiment te révéler à nous au travers de ton enseignement, l'enseignement de ta parole, Seigneur Jésus. C'est dans ton nom que je prie. Amen. J'aimerais qu'on lise ensemble le passage dans Hébreux 10. Hébreux 10, à partir du verset 19. Donc, ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, ce passage est en quelque sorte la conclusion de cette section où est-ce qu'on a vu pendant plusieurs semaines comment est-ce que Jésus est meilleur que tout. Et la dernière fois qu'on a prêché sur le livre aux Hébreux, c'était moi qui étais là, puis on s'est rappelé que Jésus était allé à notre place dans la présence de Dieu. Il est mort pour nous et il nous a assuré qu'on pouvait avoir accès à la présence de Dieu. Et en quelque sorte, ici, ce qu'on est en train de voir ici, c'est la conclusion de cette section-là, où on nous rappelle l'essentiel, où ce qu'on nous rappelle que Jésus a pris notre honte, Jésus a pris nos fautes, Jésus a pris notre culpabilité. Son sang a été versé à la croix pour nous, pour qu'on puisse être rendu parfait devant Dieu et qu'on puisse avoir accès à la présence de Dieu. C'est un rappel que Jésus a intercédé pour nous auprès de Dieu et que maintenant, à tout moment de ma vie, je peux parler avec Dieu, je peux remettre à Dieu mes soucis, je peux venir dans l'état que je suis pour confesser à Dieu mes péchés. Jésus a été intercédé auprès de Dieu en notre faveur pour qu'on puisse avoir une intimité constante avec Dieu. Et puis, ce qui est vraiment intéressant dans ce passage, c'est que l'auteur veut comme nous convaincre qu'on a accès dans la présence de Dieu. Il nous dit ici au verset 19, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Et au verset 22, on lit, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Quiconque à l'époque qui connaît l'histoire, qui connaît le système de sacrifice, et on en a parlé la dernière fois, donc si vous n'avez pas entendu ce message, je vous invite à aller le voir pour plus de l'entendre pour plus de contexte. Mais quiconque entend qu'on a l'assurance d'un libre accès au sanctuaire ne peut pas s'empêcher de se rappeler, de connaître l'histoire des sacrifices où personne n'avait accès dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Sauf un homme, une fois par année, qui devait se préparer, se purifier et qui devait aller pour le peuple, dans la présence de Dieu, pour les pardons des péchés. Mais maintenant, à cause de Jésus qui a versé son sang pour vous, qui vous a rendu pur, vous avez un accès à Dieu en tout temps. Cette phrase est un rappel de tout ce que Jésus a fait pour nous, que Jésus est meilleur que tout, et cet acte de grâce infini, c'est un miracle. C'est le miracle de la grâce ici. Personne qui est devant cette qui lit cette phrase, « Hey, j'ai accès au sanctuaire » et qui comprend ce que ça veut dire, que maintenant, c'est plus juste une personne, une fois par année, mais que c'est chacun d'entre nous qui avons une relation avec Jésus, on a constamment accès à la présence de Dieu. Quiconque entend cette phrase sait que c'est tout un privilège, que c'est toute une grâce, c'est-à-dire qu'il ne mérite pas cette relation, cette intimité avec Dieu, mais que c'est toute une grâce, c'est le miracle de la grâce. Et ce que ça produit en chacun d'entre nous, quand on réalise à quel point Dieu m'a aimé, à quel point Dieu s'est donné pour moi et qu'il me donne tout ce que je ne mérite pas par amour pour moi, alors ça produit en nous de l'humilité. En d'autres mots, ce constat est un constat qui nous rappelle qui nous sommes vraiment. Quand on parle d'humilité, des fois on a cette tendance, j'ai cette tendance comme on m'a déjà demandé, hey, définis l'humilité, puis sans trop avoir réfléchi, les choses qui me venaient en tête, c'était de dire, ben l'humilité c'est comme s'effacer, c'est comme laisser les autres prendre la place. Mais l'humilité ne consiste pas à se diminuer ou à s'effacer. C'est pas de se voir moins bon qu'on est en réalité. C'est pas de cacher ce que Dieu nous a donné ou de cacher nos forces. Non, l'humilité, c'est de me voir pour qui je suis vraiment. C'est d'avoir une juste opinion de nous-mêmes. C'est de porter un jugement réaliste de nous-mêmes. Et quand on se voit à la lumière de Jésus, de qui il est, puis de qu'est-ce qu'il a fait pour nous, on réalise vraiment qui on est. Prenons Jésus, qui est parfait, innocent, sans tache, qui la Bible nous dit qu'il est allé dans la présence de Dieu pour nous, d'un seul acte d'amour pour nous, qui était le sacrifice parfait, que depuis que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, on n'a plus besoin de sacrifice pour le pardon des péchés. Jésus s'est donné, Jésus est parfait, innocent, et il est mort pour le pardon de nos péchés par amour pour nous. Jésus a pris notre place, il est entré dans la présence de Dieu pour nous. Et à cause de cela, on a une relation intime avec Dieu. Quand je réalise qu'est-ce que Jésus a fait, puis que là je réalise, c'est pas parce que je le méritais. Au contraire, devant ce constat, je réalise à chaque jour dans ma vie, même des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, vous dites, hey, là ça va bien, j'ai une bonne relation avec Dieu, je m'entends bien avec les autres, ça fait comme 3 semaines que je ne me suis pas chicané avec ma femme. On s'entend-tu que ça risque d'arriver ce soir-là? Pour nous rappeler qu'il n'y a pas personne de parfait. Il n'y a pas personne qui mérite par nos propres efforts la grâce de Dieu, qui mérite la présence ou l'intimité avec Dieu. Et pourtant, si souvent, on est là à vouloir montrer à Dieu, « Regarde Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde comment je suis. » Mais quand on regarde qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, on se rend compte qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour que Dieu nous aime plus. On se rend compte qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour avoir l'approbation de Dieu parce que Jésus a fait quelque chose 100% mieux et il l'a fait pour moi. Et quand Dieu me regarde, ce n'est pas moi et mes manquements que Dieu voit, mais c'est l'œuvre de Jésus en moi que Dieu voit. Et quand je vois Jésus, et quand je vois son œuvre, je vois que je suis pécheur et que je suis aimé. Je suis pécheur. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils mourir pour moi. Je suis aimé. Et c'est cette phrase, se rappeler que je suis pécheur et que je suis aimé, c'est quelque chose que j'ai besoin de me souvenir, de me rappeler à chaque jour. Parce que bien souvent, on va se déterminer, on va s'identifier par nos péchés, nos manquements. On va aller dans la culpabilité. On va avoir de la difficulté à se tourner vers Dieu. Mais oui, on est pécheur, mais on a été aimé et pardonné. Je suis coupable et aimé. Je suis pas aimable, mais aimé. Je suis menteur, mais aimé. Je lutte avec la dépendance, mais je suis aimé. Je manque de patience, mais je suis aimé. Je me mets en colère, mais je suis aimé. Je manque d'amour et je suis aimé. Quand je me vois pour qui je suis vraiment, je peux m'approcher de Dieu avec humilité, avec ce constat que j'ai constamment besoin de Dieu pour avoir une relation avec lui et pour aimer les autres. Quand on réalise qui on est vraiment, quand on vit cette intimité avec Dieu, quand on vit cette humilité, ça nous empêche d'être durs et de nous comparer aux autres. Ça nous empêche d'avoir des attentes envers les autres que je ne peux même pas avoir envers moi-même. Ça me donne de l'amour pour les autres parce que dans ces moments, je me souviens que dans la plus grande histoire, je suis le pire des pécheurs et le premier qui a besoin de la grâce de Dieu. Ça nous permet de pardonner, ça nous permet d'aimer, ça nous permet d'aller vers les gens qui sont différents de nous, qui ne pensent pas comme nous. L'intimité avec Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin pour persévérer. Donc oui, on a cette intimité avec Dieu qui nous a été donné par Jésus, qui est mort à la croix et qui est allé dans la présence de Dieu pour nous. On a cette relation intime avec Dieu, et cette relation intime avec Dieu nous donne trois éléments de notre relation intime avec Dieu. Trois éléments qu'on a à cause qu'on est en relation avec Dieu. Trois éléments que Dieu nous donne pour persévérer dans notre foi. Et c'est vraiment cet encouragement-là qu'on reçoit ce matin. de persévérer dans cette foi malgré les difficultés de la vie, malgré la persécution, malgré les questions, malgré tout ce qu'on reçoit, persévérer. Et voici les trois éléments qu'on reçoit quand on a cette intimité avec Dieu. On peut lire les versets 23 à 25. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc la première chose qu'on voit, le premier élément qu'on a quand on a cette relation intime avec Dieu, c'est que Dieu, nous pouvons avoir confiance dans la fidélité de Dieu qui accomplit ses promesses en Jésus-Christ. Et c'est ce que le livre aux Hébreux jusqu'au chapitre 10 nous répète constamment à quel point Jésus est digne de confiance, à quel point Dieu est digne de confiance parce qu'il accomplit ses promesses dans la personne de Jésus, dans l'œuvre de Jésus, et vous pouvez en avoir l'assurance. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu ne nous laissera pas tomber. Si Dieu m'a sauvé, si Dieu a fait de moi son enfant, Dieu ne me laissera pas tomber. Quand ça va mal, Dieu règne encore. Quand on expérimente son amour, quand on expérimente sa fidélité, et plus on se rappelle qu'est-ce que Dieu a fait pour nous à chaque jour, plus on médite sur l'œuvre de Dieu, plus on apprend à connaître Jésus, à connaître l'Évangile. Et j'oserais même dire que ça fasse 25, 30, 50 ans qu'on est chrétien, plus on apprend à connaître Jésus et qu'on goûte à l'intimité avec Dieu, plus on goûte à la fidélité de Dieu dans nos vies. Il y a quelque temps, je parlais avec un de mes enfants, puis là, on parlait, puis là, je lui disais, ah, papa s'en va tantôt, puis, mais là, lui, il savait aussi que maman s'en allait tantôt. Fait que là, il me demande, il dit, mais qui va nous garder? Puis là, j'étais comme, je voulais juste voir, tu sais, qu'est-ce qu'il allait dire. Je dis, c'est assez grave, vous pouvez vous garder toute seule, vous n'avez pas besoin de personne pour venir vous garder, on s'en va, puis on va revenir tantôt. Puis là, je voulais juste voir sa réaction, puis il me dit, non, qui va nous garder? Puis là, je répétais ça, puis il dit, puis en tout temps, il n'y a pas eu une seconde où est-ce que mon enfant, il a commencé à paniquer puis à avoir peur. Puis ça m'avait comme surpris, c'était comme, il savait qu'on n'allait pas le laisser seul. Il y avait cette assurance-là qu'on allait prendre soin de lui. On n'allait peut-être pas être là pendant un certain temps, maman et papa, mais ici, papa et maman, ils ont fait des arrangements pour que nous, on soit en sécurité ici et que quelqu'un va prendre soin de nous. Fait que là, papa, arrête de me niaiser. C'est-tu mamie ou c'est tantie qui va venir nous garder? Qui va venir nous garder? Et c'est ça qu'on a besoin d'expérimenter constamment, de se souvenir que même dans les moments de doute, les moments les plus difficiles de nos vies, Dieu est un Dieu fidèle qui se rappelle qui va toujours accomplir ses promesses et qui va prendre soin de nous. La Bible nous dit que Dieu est bon, alors Dieu est bon. La Bible nous dit que Dieu va prendre soin de nous, alors Dieu va prendre soin de nous. Combien de fois dans nos vies est-ce qu'on sent que ça, c'est peut-être pas une vérité? On sent pas que Dieu est bon. On sent que Dieu a manqué à une promesse ou que Dieu répond pas à une promesse. Dans les épreuves de nos vies, on peut poser ces questions-là à Dieu. Une chose que j'aime rappeler, que j'ai parlé souvent à la jeunesse avec les ados, c'est que Dieu n'est pas l'expérience que j'ai de lui. Dieu n'est pas ultimement l'expérience que j'ai de lui. La parole nous dit que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est fidèle. Alors apprenons à goûter à l'amour, la bonté, la fidélité de Dieu dans les moments difficiles de nos vies ou quand on ne le sent pas. Nous pouvons méditer sur ça. On peut prier Dieu, on peut chercher Dieu et on peut voir aussi que le deuxième élément, c'est que bien qu'on peut avoir confiance dans la fidélité de Dieu, c'est qu'on est aussi appelé à s'engager les uns envers les autres. Dieu nous donne l'Église. Dieu nous donne les uns les autres pour que justement, quand moi j'ai de la difficulté à un moment de ma vie à voir la fidélité de Dieu, à voir l'œuvre de Dieu, où j'ai des doutes, où toute l'information qu'on reçoit, soit sur nos recherches sur Internet ou sur les médias, ou tout ce qui se passe, on commence à avoir des doutes, à remettre des choses en question. Quand on a des difficultés, on a les uns les autres pour se rappeler c'est quoi l'essentiel du message de l'Évangile. On a les uns les autres pour s'encourager. On a les uns les autres pour se rappeler que Dieu est bon. Dieu prend soin de nous. Et dans ce passage, je veux juste relire le verset 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour, à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ici, l'auteur nous donne une information qui dit qu'il y a des gens à cette époque-là qui quittaient les assemblées chrétiennes, qui quittaient l'Église. Et on parle ici de réunions formelles, des réunions d'assemblée qu'il y avait pendant la semaine ou qu'il y avait le dimanche. Mais on parle aussi de juste quitter les relations que les gens avaient avec des chrétiens. Et l'auteur va lier ce fait-là directement, et si vous voulez continuer après à lire le verset 10, à l'abandon de la foi. Vous voulez persévérer dans la foi, mais vous avez besoin de vous engager dans la communauté chrétienne, d'avoir des relations avec les frères et sœurs qui vous entourent. C'est des éléments que Dieu nous donne pour persévérer dans notre foi. Les raisons qu'il y avait à l'époque, bien certainement la persécution, les gens avaient peur. Si je vais à l'église, si on me voit en compagnie de chrétiens, peut-être que je vais mourir, peut-être qu'on va, on va me persécuter. Certains étaient préoccupés par d'autres choses qui étaient plus importantes pour eux. Leur vie chrétienne n'était pas compatible avec leur entreprise, avec les affaires qu'ils menaient, avec le travail qu'ils avaient. D'autres pensaient, à l'époque, qu'on n'avait pas besoin de continuer une fois qu'on avait reçu l'essentiel du message, on pouvait vivre la foi par nous-mêmes. Dans ce contexte de persécution, où les préoccupations sont grandes, dans tous les contextes, depuis ce temps-là, où ce qu'on a du découragement, le découragement va être présent à un moment donné. Dans ces contextes-là, où on perd de vue la fidélité de Dieu en tant qu'individu. Dans des moments où on est consommé par la peur, par le doute, où on se sent seul. On a absolument besoin des uns des autres, de notre Église, de nos frères et sœurs. Et on vit en ce moment un temps vraiment spécial, on va se l'avouer. Depuis le mois de mars, on ne peut pas se rassembler comme on le faisait avant, à tous les dimanches. On a des moments où est-ce que là, ça a bougé beaucoup, mais où est-ce que c'est difficile de se rencontrer physiquement en tant que groupe, où est-ce que c'est difficile de... Et je vous le dis, avec la jeunesse, juste pour commencer cette année, on a dû changer d'idée 8 fois à un moment donné dans une semaine pour finalement annuler cette semaine-là, recommencer la semaine d'après, puis c'est super compliqué. Et peut-être que je réalisais l'autre jour, vendredi, quand Awana a débuté, mon fils, c'était la première fois qu'il venait depuis le mois de mars ici au bâtiment de l'église. Nos façons de se rassembler, de se rencontrer ont changé. Et parfois, bien que l'isolement, c'est difficile, qu'on aimerait ça, on a tous hâte que tout ça soit fini et soit derrière nous. Parfois, il y a ce danger d'être bien toute seule. Parce que les relations, c'est compliqué des fois, puis on aime mieux être seul à la maison, puis pas dealer avec les relations qui sont compliquées. Ou on se dit, ben moi, je suis capable d'y arriver toute seule. Maintenant, j'ai toute l'information sur Internet, je peux me nourrir, j'ai pas besoin des autres, je peux être bien toute seule. On peut se dire toutes sortes de choses comme ça. Mais l'Église, c'est tout d'abord les relations qu'on a les uns avec les autres. C'est tout d'abord l'engagement qu'on a de grandir ensemble. De grandir dans notre foi, de grandir dans notre ressemblance à Jésus, de grandir dans notre amour pour Jésus, de croiser et de partager l'Évangile autour de nous. On veut grandir ensemble. Et quand je suis engagé dans une église, je veux m'engager dans les relations les uns avec les autres tout d'abord. Alors parfois, on peut avoir cette pensée qui dit « j'ai pas besoin de l'église, je peux me nourrir moi-même ». mais on a besoin des relations. C'est essentiel pour grandir dans la foi. On a besoin d'encouragement, on a besoin de redevabilité. La semaine passée, je crois, le 13 octobre, en fait, c'est une rencontre avec les responsables de ministère, avec des bénévoles de l'Église. Puis ensemble, on a eu une soirée de témoignages où est-ce que les gens pouvaient partager les évidences de la grâce de Dieu dans la dernière année. Et ce que personne ne savait ce soir-là, c'est que moi j'étais ici, j'étais le modérateur Zoom avec les gens qui étaient sur Zoom. Et ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que j'étais découragé cette journée-là. J'étais négatif, j'avais une mauvaise journée, ça n'avait pas été comme je voulais, puis j'étais découragé. Et j'étais là, assis sur ma chaise, et une personne après l'autre venait raconter les évidences de la grâce de Dieu dans leur vie, puis dans la vie de leur ministère dans la dernière année. Et j'écoutais les témoignages, je voyais Dieu à l'œuvre, et Dieu me rappelait quand que ça ne marche pas, puis que peut-être que tu ne vois pas l'œuvre, mon œuvre dans ta vie, ça ne veut pas dire que l'œuvre de Dieu ne continue pas dans la vie des autres, puis même dans ta vie. J'étais encouragé. Et ce soir-là, on a fini la rencontre, je remerciais le Seigneur, je glorifiais Dieu pour son œuvre, pour ce qu'il avait fait. J'avais besoin de mes frères et sœurs ce soir-là. Peut-être que des fois, on se dit que c'est trop compliqué parce qu'il y a trop de gens qui ne pensent pas comme moi. Mais ce qui est important quand on pense à l'Église, c'est important de se rappeler l'essentiel. Un, c'est correct de ne pas avoir les mêmes convictions sur tout, de ne pas avoir les mêmes pensées sur tout ce qui se passe dans la vie. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on est unis dans la personne de Jésus. On doit d'abord partager cette unité dans l'amour qu'on a les uns avec les autres. Vous savez, pour l'Église, ce n'est pas négociable de rechercher l'unité dans l'amour, de chercher l'amour de mon prochain. Et ça commence quand je réalise que j'ai cette intimité avec Dieu, pas à cause de ce que moi j'ai fait, mais à cause de ce que Dieu a fait pour moi, et je veux apprendre à aimer les autres. Ceux qui ne pensent pas comme moi, ceux qui n'ont pas les mêmes pensées, peut-être, je ne sais pas, moi, politique ou sur des décisions qu'on devrait prendre. Non, on va s'unir dans l'Évangile, puis on va s'unir ensemble pour partager le message de l'Évangile et s'aider à grandir les uns les autres. Ça, c'est un rôle qu'on a les uns envers les autres, c'est cet engagement qu'on a les uns envers les autres. Et oui, c'est comme je disais tantôt, c'est difficile de se rencontrer. Mais on peut continuer à se rencontrer de plusieurs manières. Des fois, qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais je sais que quand on s'engage, premièrement, le principe, c'est de s'engager dans les relations les uns envers les autres. On veut se poser la question, comment est-ce que je peux maintenant m'engager dans les relations les uns avec les autres? On peut se rencontrer ici le dimanche de façon limitée. Il y a des groupes qui se rencontrent en semaine parce qu'on a l'opportunité d'avoir des groupes de 25 encore. Il y a des gens qui le font par Zoom, des beaux témoignages de ce qui s'est passé par Zoom dans la dernière année, de comment Dieu a utilisé ce moyen pour encourager les frères et sœurs. On peut prendre le téléphone, on peut écrire des messages. On peut choisir de s'engager et de rester connectés les uns avec les autres. Donc Dieu nous donne confiance dans sa fidélité, dans son œuvre. Dieu nous donne cet engagement qu'on a les uns avec les autres. Et la troisième chose que Dieu nous donne, c'est une anticipation du retour de Jésus-Christ. Rappelons-nous, frères et sœurs, que le meilleur est toujours à venir. Le meilleur est toujours à venir. Peu importe comment ça va aujourd'hui, peu importe comment ta vie se déroule présentement, pas peu importe parce qu'on s'en fout, mais parce qu'un jour, ça va être meilleur. Parce qu'un jour, Jésus va revenir et il n'y aura plus de soucis, puis il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de solitude. Et on peut vivre avec cette espérance-là à cause de l'œuvre de Jésus. Cette année-là, je débute mon secondaire 4. Et puis j'ai demandé à Dieu pour un ami. Et je me rappelle de ça souvent parce que ça, c'est un des moments dans ma vie où est-ce que Dieu me rappelait sa fidélité, comme d'une façon miraculeuse. J'arrive à l'école, j'ouvre mon casier, je ferme la porte du casier, puis un de mes amis chrétiens que j'avais perdu de vue était là, devant moi, c'était son casier à côté. Le Seigneur lui avait dit la même chose dans les derniers mois, puis on a cheminé ensemble pendant les deux dernières années de notre secondaire à être des témoins de Jésus autour de nous. Puis lui, il avait des forces que moi, j'avais pas. J'avais des forces que lui, avait pas. Puis on avait besoin de l'un et l'autre. Puis Dieu me rappelle. C'est ce moment-là dans ma vie où Dieu me rappelle que je peux pas vivre ma foi tout seul. Je suis pas assez bon. Je suis trop faible pour ça. J'aimerais ça inviter l'équipe de louanges à venir, à s'installer. Mais Dieu est fidèle, Dieu répond, Dieu prend soin. Et Dieu a répondu à cette prière à ce moment-là dans ma vie. Et Dieu veut continuer à le faire et Dieu le fait constamment. Et ce matin, je veux t'inviter. Je veux t'inviter à cette semaine, en fait, dans la prière, à prendre un temps puis t'arrêter pour considérer la fidélité de Dieu dans ta vie. Prends un temps dans la prière où tu ne vas pas rien demander à Dieu, où tu ne vas pas, tu fais juste t'asseoir. Peut-être tu peux prendre un bon café parce que tu veux être là avec Dieu, puis tu veux prendre un temps avec Dieu, puis tu fais juste te rappeler la fidélité de Dieu dans ta vie. Comment est-ce que Dieu a été fidèle envers toi? Prends un temps cette semaine pour penser aux personnes qui te manquent, aux personnes que tu n'as pas l'occasion de voir comme avant, aux personnes à qui tu peux partager comment ça va vraiment dans ta vie, puis qui peuvent prier pour toi. Je t'encourage ce matin de prendre, d'écrire le nom de cette personne-là ou ces personnes-là. Peut-être que c'est un groupe que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Peut-être que c'est une sœur, un frère. Prends le téléphone cette semaine. Comment est-ce que vous pourriez peut-être même dire, est-ce qu'on peut se rencontrer virtuellement pour prier? Notre groupe peut se rencontrer à l'église pour avoir un temps ensemble? Engageons-nous les uns envers les autres parce qu'on a besoin des uns des autres pour persévérer dans notre foi. Et rappelons-nous toujours, frères et sœurs, le meilleur est toujours à venir. Que Dieu vous bénisse.